Bonjour et bienvenue sur Micro Rebelle, à l'écoute de nos chroniques kurdes. Aujourd'hui, ce sera donc la deuxième de ces chroniques kurdes. Et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez réécouter l'ensemble de ces chroniques sur notre site internet en téléchargement microrebelle.fr. Lors de notre première session, nous avons abordé ce qui se passe au Kurdistan turc, le Bakour, et au Kurdistan syrien, le Rojava. Il s'y passe une société écoféministe, démocratique, pluraliste, qui s'y développe sous l'impulsion notamment des femmes kurdes. Nous avons abordé ces aspects avec l'association Femmes Solidarité Kobané, sur laquelle nous reviendrons dans une de nos prochaines chroniques kurdes. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir plus en détail sur ce qu'est le Kurdistan, le peuple kurde, son histoire et la réalité aujourd'hui de ce peuple.
Le Kurdistan. Nous sommes dans une région du monde où la guerre couve depuis longtemps, très longtemps. Et pas seulement depuis que les Bush père et fils ont fait lever la fameuse tempête du désert en 1991, depuis bien plus longtemps. Cela remonte à la fin de l'Empire ottoman, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les accords Sykes et Picot ont alors organisé le dépeçage de l'Empire. À l'époque de la signature, la région faisait depuis 3 siècles partie de l'Empire ottoman et était de ce fait unifiée. Les grandes villes millénaires, Bagdad, Damas, Jérusalem et Constantinople, aujourd'hui Istanbul, n'étaient alors séparées par aucune frontière et les liens entre elles étaient nombreux et vivaces. Les diplomates et les militaires français et britanniques allaient tailler dans le vif en créant des régions, puis des pays, en fonction des seuls intérêts stratégiques et commerciaux de leurs impérialismes. Les accords conclus le 16 mai 1916, il y a exactement 100 ans, ignorent les frontières culturelles, ethniques, naturelles. Ils tracent de nouvelles frontières d'un trait de plume. Ce sera la source d'inévitables conflits à venir. Comme le dit le chanteur Tikenja Fakouli, ils ont partagé le monde et ils s'étonnent que nous soyons désunis. Ce fut donc, après la Première Guerre mondiale, la fin de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui avait été l'allié des Allemands pendant la guerre et qui faisait donc partie des perdants. La population kurde, qui était installée dans une partie de cet empire ottoman qui en constituait une région, était alors composée de 30 à 40 millions d'habitants. Ce peuple kurde se retrouve partagé entre 4 États construits par ces accords: la Turquie, l'Iran, l'Irak, la Syrie. Pour les dirigeants de ces États, le droit des peuples n'existe pas. Et selon le moment ou selon leur choix politique, ces États ont soit toléré, soit ignoré, soit réprimé, soit massacré la population kurde, dont la situation est ainsi fonction à la fois des régimes de ces 4 États, mais également des conflits entre eux et de leur rapport avec les grandes puissances. Aujourd'hui, la population kurde en Turquie, réunie dans la région que l'on nomme le Bakour, est constituée d'environ 25 millions d'habitants. En Iran, ce sont 7 à 9 millions de Kurdes qui occupent la région du Rojilat. En Irak, environ 5 millions de Kurdes habitent la région du Bachour. Et en Syrie, ce sont environ 4 millions de Kurdes qui se retrouvent dans la région nord de la Syrie, le Rojava. Il y a également environ 2 millions de Kurdes en Europe occidentale, dont 1,5 million en Allemagne et environ 250 000 en France. Nous allons maintenant donner quelques points de repère historiques sur les Kurdes dans chacun de ces 4 pays.
Nous commençons par la Turquie. Donc en Turquie, le Kurdistan s'appelle le Bakour. Au niveau historique, on peut évoquer les révoltes kurdes dans les années 1920-1930 qui ont été noyées dans le sang par le régime de Mustafa Kemal. La plus célèbre de ces révoltes, c'est le soulèvement de Dersim en 1937 qui finira avec la moitié de la population déportée vers les villes de l'Ouest ou exterminée. On a exterminé 40 000 personnes. Ce sera le premier génocide kurde de l'histoire. Depuis 1984, le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, déclenche un mouvement de guérilla. On va y revenir.
En Iran, les Kurdes représentent un sixième de la population. En 1979, à l'occasion de la révolution contre le Shah d'Iran, un espoir a été suscité, mais il n'y a pas eu de reconnaissance de leur spécificité au niveau national. Quelques mois plus tard, une fatwa de l'ayatollah Khomeini, arrivée au pouvoir, déclare le djihad contre les Kurdes. La répression s'abat alors sur eux. Les régions kurdes d'Iran, correspondant à quatre provinces du Nord-Ouest, sont toujours parmi les plus pauvres du pays. Le chômage y atteindrait 50%. Et l'actuel régime de Rouhani réprime brutalement toute pratique déviant de la loi. Au-delà des peines de prison, les Kurdes subissent torture, exécution, lapidation.
En Irak, c'est-à-dire au Bachour, la situation est particulière. En 1988, à la fin de la guerre Iran-Irak, donc l'ayatollah Khomeini en Iran et Saddam Hussein en Irak, les régions kurdes subissent une violente répression, et notamment des bombardements au gaz par l'armée de Saddam Hussein. Ce sont les différentes opérations Anfal qui vont aboutir à la mort de 180 000 civils, dont notamment les 5 000 habitants de la ville martyre de Halabja. Suite aux guerres du Golfe, depuis 1991, déclenchées par les USA, les régions kurdes d'Irak aboutissent à une autonomie de fait. Ceci étant, il faut rappeler que les occupants américains ont préféré laisser l'armée irakienne mater une révolte kurde à la fin de la première guerre du Golfe, par crainte d'un pouvoir révolutionnaire kurde qui aurait pu naître des rébellions. À la suite de quoi, les États-Unis ont pu se présenter en protecteur de la population kurde en imposant au nord, au-delà du 36e parallèle, une zone d'exclusion aérienne interdisant les incursions de l'armée de Saddam Hussein. C'est cette mesure qui a permis le retour des populations qui avaient fui vers la frontière turque et l'instauration d'un pouvoir politique partagé entre les deux partis kurdes d'Irak, le PDK de Massoud Barzani et l'UPK de Jalal Talabani. Ce pouvoir bénéficiait donc du soutien des États-Unis, mais aussi de l'accord de la Turquie voisine. C'est ce qui a donné le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan. Notamment, le PDK et l'UPK se montraient prêts à affronter la guérilla kurde de Turquie, dirigée par le PKK, et à l'empêcher d'utiliser leur territoire comme base arrière. Il s'en est ensuivi une certaine aisance de cette région kurde d'Irak, alors que le reste du pays, sous l'effet de l'embargo occidental, s'enfonçait dans la misère. À l'occasion de la deuxième guerre du Golfe, en 2003, le nouveau pouvoir, sous protection américaine, après le renversement de Saddam Hussein, reconnaît officiellement l'autonomie du Kurdistan irakien. Les deux parties, UPK et PDK, avec leur armée régulière, les Peshmerga, contrôlent solidement la région. Ils disposent des ressources pétrolières de la région de Kirkuk. Ils développent le commerce avec la Turquie voisine. En quelques années, des universités ouvrent, des hôpitaux, des aéroports, des autoroutes, etc. Ce développement économique profite à la petite bourgeoisie kurde irakienne. Les deux partis, à l'origine concurrents, s'entendent pour le partage du pouvoir et des revenus découlant de l'enrichissement de la classe dirigeante. Ce pouvoir se permet y compris de passer des accords directs avec les compagnies pétrolières occidentales, sans en référer au gouvernement central, et surtout en s'en réservant les revenus. Autre caractéristique, le développement très capitaliste de la capitale du Kurdistan irakien, Erbil.
En Syrie, les Kurdes constituent plus de 10% de la population. Ils sont officiellement privés de tout droit et, pour la plupart, de la nationalité syrienne. On les retrouve au Rojava, région située au nord de la Syrie. La rébellion qui éclate en 2011 contre Bachar el-Assad en Syrie change la situation des Kurdes. Pour éviter de combattre les Kurdes à un moment où ils devaient combattre sur de nombreux autres fronts, Assad a accepté de céder le pouvoir au Rojava au parti kurde de Syrie, le PYD, parti de l'Union démocratique, qui a ainsi proclamé l'autonomie du Rojava en novembre 2013.
On va maintenant s'intéresser à l'histoire récente des luttes au Kurdistan.
Dans les années 70, des mouvements de libération nationale kurde apparaissent en Turquie, inspirés notamment par les mouvements en Amérique latine. En particulier le PKK, Parti des travailleurs du Kurdistan, qui a été créé en 1978 par des étudiants marxistes-léninistes qui voulaient voir évoluer la société tribale kurde en une société révolutionnaire et indépendante de la souveraineté turque. Après le coup d'État de 1980 en Turquie, le régime militaire va se déchaîner sur tous les militants de gauche en emprisonnant et exécutant une bonne partie. Le PKK décide alors de prendre les armes et lance le 15 août son premier soulèvement. Constitués en comités régionaux qui font du porte-à-porte et qui essayent d'attirer un maximum de familles, le PKK devient assez vite le principal acteur de la lutte kurde. Les années 80 et 90 seront marquées par la guerre entre d'un côté l'armée turque et de l'autre les combattants du PKK et les civils habitant les villes et villages kurdes. Environ 4000 villages sont brûlés, à nouveau 3 millions de réfugiés quittent leurs terres, 30 000 civils sont tués et des milliers de militantes et militants et intellectuels sont emprisonnés, beaucoup d'ailleurs sont toujours derrière les barreaux. Ces décennies sanglantes auront gravé la mémoire des Kurdes et auront laissé orphelines toute une génération de jeunes qui ont perdu leur père ou un autre proche et qui se battent actuellement contre la police et l'armée depuis cet été. Mais c'est aussi de cette période que le PKK tire sa réputation de stalinien. Il est vrai que, comme toute force armée dans une guerre, le PKK n'est pas tout blanc et a commis des violences douteuses, y compris à l'intérieur du mouvement. Néanmoins, une grande partie de la population kurde de Turquie reconnaît au PKK et à son leader Abdullah Öcalan leur courage et leur détermination qui auront réussi à créer un véritable rapport de force capable de faire valoir certains de leurs droits de base. Par exemple, depuis les années 2000, la langue kurde et le mot kurde ne sont plus interdits en Turquie. Quelque chose d'impressionnant pour un mouvement politique de masse, c'est l'autocritique qui a été portée d'abord par le leader, Apo, c'est-à-dire Tonton, qui est enfermé sur l'île prison d'Imrali depuis 1999. Cette réflexion sur le PKK et les autres luttes de libération nationale a mené le PKK à adopter une toute autre philosophie et tactique politique nommée le confédéralisme démocratique. On en a parlé dans la première chronique kurde sur notre radio. Le confédéralisme démocratique prône, comme son nom l'indique, une organisation confédérale de communes locales coordonnées entre elles à plusieurs échelles. Il s'agit en fait d'une adaptation du municipalisme libertaire de Murray Bookchin, fondateur de l'écologie sociale. Cette approche est prônée par l'ensemble du mouvement de lutte kurde en Turquie et expérimentée dans une certaine mesure dans le Kurdistan de Turquie, le Bakour, et une plus grande mesure dans le Kurdistan de Syrie, le Rojava, depuis sa prise d'autonomie face au régime de Bachar el-Assad en 2012.
Bien, cette deuxième chronique kurde se termine. Merci de nous avoir écoutés. Elle sera évidemment disponible en ligne sur microrebelle.fr. Et à très bientôt pour la troisième de nos chroniques kurdes. C'est la fin de cette émission Micro-Rebelle Hebdo. Merci de nous avoir écoutés. Donc peut-être quelques rappels avant de nous quitter. N'hésitez pas à nous solliciter hein, si vous souhaitez passer sur notre antenne. Si vous avez des idées de reportage, hein, nous vous confions du matériel, nous vous formons et vous pourrez mener votre propre chronique ou alors une émission qui vous tient à cœur. Pour nous contacter, le plus simple, c'est le courrier électronique hein, contact@microrebelle.fr. Sinon, toutes les infos, tout le suivi, c'est sur notre site microrebelle.fr. À très bientôt. Peut-être un dernier rappel avant de nous quitter. Microrebelle est une jeune association qui démarre ses activités radiophoniques. Nous sommes en recherche de moyens financiers. Typiquement pour des questions d'achat de matériel et de locations diverses et variées. Nous vous sollicitons, hein, le plus simple c'est le chèque à l'ordre de Micro Rebelle.